Yes, yes, yo. Donc voilà, vous êtes dans l'émission Transistor, dernière de la saison d'ailleurs, enfin pas de la saison, mais de l'année 2012. Nous étions pour notre précédente émission en direct et en live à la Crypte du Théâtre, et pour cette dernière émission de l'année, on est de retour bien au chaud dans nos chers studios de l'autre radio. Voilà, donc une émission où on a le plaisir de recevoir un facteur, non pas un salarié des PTT, hein, vous inquiétez pas, mais un facteur d'accordéon. Clément Gay, c'est l'un des rares, si ce n'est le seul d'ailleurs, luthier, fabricant d'instruments du département. Et il va nous parler tout au cours de cette petite heure et demie d'émission de son très beau métier, parce que je lui poserai d'ailleurs la question, on lui posera la question, n'y a-t-il rien de plus merveilleux que de fabriquer des instruments de musique? Alors il nous répondra là-dessus. Mais avant, on va commencer par l'habituel démo haricot. Place à la démo haricot, qui va aujourd'hui nous livrer une petite nouveauté d'un groupe pas si nouveau que ça, où d'ailleurs je crois qu'il sera question d'accordéon, n'est-ce pas mon cher Rico? Bonsoir.
Bonsoir, oui bah oui, voilà, ouais, justement pour la dernière de l'année, donc à l'approche des festivités de fin d'année, Transistor, l'émission, connue pour et reconnue surtout pour sa magnificence légendaire.
Quelle faconde.
Ne pouvait clôturer l'année 2012 justement sans vous offrir à vous fidèles auditeurs et auditrices de l'autre radio et de Transistor l'émission une exclusivité mondiale, je dis bien mondiale, qui depuis deux jours rugit au fond de mon sac en cuir de vachette. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. C'est donc le cœur léger et empli de l'esprit de Noël que je m'empresse de vous présenter le nouveau projet des fils Canouche, The Electro Canouche Orchestra. Rien que ça, hein, ça jette hein, quand même. Hein. Donc, au risque un petit peu de me prendre une volée de cailloux sur la tête, j'ose vous dire tout de suite que ce projet est sans conteste le meilleur antidépresseur du mois de décembre, hein, à prescrire dans toutes les pharmacopées du coin. Donc, destiné à séduire en fait les escours des programmateurs des salles et festivals, ce swing sous LSD s'appuie sur une recette un petit peu éculé, puisque en fait on y entendra un petit peu le mélange swing électro pour les esprits chagrins en disant oui c'est déjà vu, mais qui fonctionne merveilleusement bien dans l'intention musicale. Ils ont fait appel en fait pour ce projet au petit gredin beatmaker DJ Slad qui officie autrement dans le Babel Quartet, qui a revisité en fait le répertoire acoustique des Canouches en les pimentant d'une petite sauce électro constituée généralement de rythmes électroniques, de scratch et de samples, pour un rendu au final diablement efficace à l'écoute. Donc ça se situe, on va dire, entre Caravan Palace, un peu de Gotham Project, on peut aller jusqu'à Chantel, disons. Enfin, il y a un esprit un peu moustache et rouge, bouchonné, laisse place surtout à une ambiance jouissive et électrique. Le froid, beau régner dehors, mais à l'écoute de cet EP 5 titres, je peux vous garantir que la température monte d'un cran, allant même jusqu'à frôler la canicule. Pour l'avoir testé en famille, en effet, ça se déhanche, ça rigole et surtout, ça s'amuse. Côté scène, vous pourrez les voir le 12 janvier prochain au Théâtre de Laval dans le cadre de la soirée dédiée à la compile On Air. Attendu.
Laval On Air.
Laval On Air, oui, pardon, c'est la compile On Air ou Laval On Air, oui.
Laval On Air. Ouais.
Laval On Air, d'accord, ok. Ça arrive avec Yvette Horner. c'est la soirée accordéon, excuse-moi.
Oui, c'est vrai.
Voilà, Laval On Air, ouais. Donc, en fait, en attendant, bien sûr, il y aura d'autres dates qui viendront dans le premier semestre 2013. De toute façon, il faudra être relativement vigilant. Donc, je vous laisse découvrir, chers auditeurs et auditrices, en avant-première. Donc, c'est un immense privilège, hein, quand même. Immense. Le morceau.
Personne n'a jamais encore entendu ce morceau.
Personne n'a encore jamais entendu ce morceau.
À part nous.
Martine à la plage, qui est un morceau des Canouches, je crois, qui date de 2012, ou je sais plus, 2011, qui était dans l'album La Mécaniche, et qui représente le son swing des Canouches avec de l'électro par-dessus. Bon, c'est un peu dans la lignée de Caravan Palace, mais
comme
sans
on
chant.
Disait, ouais.
Voilà, un petit peu. Donc, ça, c'est surtout une manière de botter les fesses à la frilosité du mois de décembre, à sa déprime et ses températures négatives. Bref, de quoi passer un Noël hot.
We'll be right back. je suis plus fort que...
Voilà, donc vous êtes réchauffé dans vos chaumières, on espère, avec cette version électronifiée, on va dire, électrifiée, électronifiée, remixée des Fils Canouches, donc groupe de jazz manouche lavallois, qui se dévergonde un peu sur des beats hip-hop et électro avec ce nouveau projet, donc The Electro Canouche Orchestra. Et ce titre en avant-première mondiale que nous faisions découvrir dans cette émission Transistor, où, comme je disais tout à l'heure, nous recevons ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Clément Gay. Bonsoir Clément.
Bonsoir.
Facteur d'accordéon, comme je le disais et tout à l'heure, et aussi musicien, je crois. Est-ce que d'ailleurs, il faut être musicien quand on fabrique des instruments de musique ? Est-ce qu'il faut mieux avoir une oreille musicale et même plus que ça, une pratique de la musique pour aussi bien fabriquer des instruments ?
Bah alors, je
question
dirais,
d'entrée comme ça.
Ouais.
Vous avez 3 minutes.
Je vais essayer d'y arriver. Je dirais pas nécessairement. Hein. D'ailleurs, il y a plusieurs facteurs, en tout cas en accordéon, qui fabriquent des très bons accordéons, qui sont très reconnus d'ailleurs aujourd'hui mondialement. Hein. Et qui ne jouent pas d'accordéon du tout, quoi. Qui simplement, ils ont un savoir-faire, une oreille, et puis, même, je pense que l'oreille se fait avec le temps aussi, forcément. Mais non, il n'y a pas forcément besoin d'être musicien pour fabriquer un instrument, quoi.
Mais toi, en l'occurrence, tu as commencé par la pratique de la musique avant de, et même de cet instrument avant d'en jouer, avant de le fabriquer.
Oui, ouais, ouais, j'ai commencé...
Toi, je crois que tes sources musicales remontent à très loin, quoi, puisque tu es issu d'une famille
déjà,
a son importance.
J'étais bercé dans l'accordéon quand même, puisque mon père en joue. Et puis c'est vrai que c'est un peu de famille. Mon grand-père en joue... En jouait, il en joue encore un tout petit peu aujourd'hui parce qu'il a quand même 95 ans.
D'accord.
Et je le salue d'ailleurs.
Donc il n'est pas loin, puisqu'on peut le dire aussi, t'es originaire du coin là, du
sud. Ouais, je suis originaire
de Dirty South dans la présentation de Dirty South Mayennais, un fier représentant.
Ouais, c'est génial ça.
et donc voilà, mon père aussi en joue, mes oncles aussi. Donc c'est vrai qu'on a été bercés, moi, ma famille, mes frères et sœurs, quoi, un peu dans cette ambiance d'accordéon, quoi, toutes les fêtes de famille, il y a jamais une fête de famille sans qu'on sorte l'accordéon. Et puis je sais plus où j'en étais dans tout ça.
Et justement, mais c'est intéressant. C'est quoi la musique qui est jouée dans les fêtes de famille ? C'est plutôt une musique.
Alors là, quand c'est comme ça, on se retrouve, on essaie de se mettre d'accord sur quelques morceaux qu'on a en commun. Mais c'est vrai que comme on se voit pas tout le temps, on n'a pas un grand répertoire. Après on fait.
C'est du répertoire traditionnel.
Voilà, c'est du répertoire traditionnel.
Ouais, parce que l'instrument aussi veut ça, quoi.
Voilà, aussi, c'est vrai que l'instrument se prête bien à cette musique traditionnelle, encore qu'aujourd'hui, il a quand même évolué et permet de jouer vraiment un répertoire très, très, très varié, hein, même du jazz aujourd'hui, ou tout style de musique, quoi, vraiment. On est sorti de l'accordéon diatonique, ancré vraiment dans ce répertoire traditionnel. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus de style de musique avec.
Alors, justement, tu lâches le mot, je ne l'ai pas encore sorti, diatonique, puisque c'est vrai qu'on disait que tu étais fabricant, facteur d'accordéon. Mais si on veut être précis, j'avais prévu de poser la question plus tard, mais
ah mince.
On bouleverse tout. Si on veut être précis, et puis c'est bien de commencer aussi par ça, l'accordéon diatonique, c'est pas l'accordéon chromatique. Il y a deux grandes familles d'accordéons.
Ouais,
l'accordéon
voilà.
Chromatique, c'est celui qu'on connaît le mieux peut-être, qui a
celui de la
musette, celui de la variété.
Exactement. Voilà.
Je te laisse nous expliquer ça.
Bah, disons que pour faire simple, un accordéon chromatique, c'est l'accordéon qui est déjà beaucoup plus gros. Alors on le retrouve, on peut avoir un accordéon chromatique à touche bouton ou à touche piano, on en voit aussi beaucoup à touche piano. Et la différence entre les deux, c'est que sur un accordéon chromatique déjà, on peut avoir une gamme chromatique. On a la même note quand on appuie sur un bouton, en tiré, lorsqu'on tire le soufflet et lorsqu'on referme le soufflet. On a la même note, exactement la même note. Qu'un accordéon diatonique, à l'origine de l'accordéon diatonique, on ne peut jouer qu'une gamme diatonique. Et on n'a pas toutes ces altérations qu'il y a sur un accordéon chromatique. Et l'accordéon diatonique se joue donc en tiré poussé. Et quand on appuie sur une touche, on a une note en tiré et une autre note en poussé. Un petit peu comme l'harmonica, quoi.
Voilà. C'est un instrument qui finalement serait assez proche, même si de l'harmonica dans son fonctionnement, quoi.
Exactement, ouais. C'est un harmonica soufflé, quoi.
Et à bouton, quoi.
Voilà.
Et c'est beaucoup plus petit en taille.
Excuse-moi, ce qui permet aussi d'aborder peut-être d'autres styles. Le fait de jouer en diatonique ou en chromatique, parce que tout à l'heure Nico parlait éventuellement plus de musette ou de variété avec le chromatique, le diatonique peut peut-être lorgner vers d'autres univers
musicaux.
Aussi, bien
qu'aujourd'hui, ce que je disais, c'est vrai qu'on arrive à jouer à peu près tous les styles avec un accordéon diatonique. C'est juste que quand même, on a le fait d'avoir le sens du soufflet, l'action de tirer et pousser, qui donne un timbre particulier quand même, je trouve, au morceau. On fait la différence entre un morceau joué avec un accordéon chromatique, si on prend le même morceau, quand il est joué avec un chromatique, que quand il est joué avec un diatonique.
Voilà. Alors toi, comment tu viens à cet instrument, enfin justement, tu le vois pratiquer autour de toi dans ta famille quand t'es gamin, et du coup assez instinctivement, naturellement, tu apprends l'instrument ou tu apprends d'autres instruments ou comment ton parcours de musicien, en fait, comment il se fabrique.
Alors, je dirais, j'ai commencé par jouer du violon. Et puis, j'ai fait à peu près 4 ans de violon.
À l'école de musique et tout ça.
Non. Oh là non. J'ai fait un an de solfège.
Le violon en autodidacte. Ouais.
Exactement. Ouais,
mais ça ne marchait pas dans les repas de famille.
Oh, ça marchait, mais
Ouais, t'étais violon, genre
c'est
au bout de la table.
Quand même,
ouais.
C'est pas terrible.
Ouais, c'est compliqué.
C'est dur avant de maîtriser la bête.
Ouais, c'est quand même assez compliqué. J'y reviens quand même aujourd'hui parce que je trouve que c'est dommage, mais non, je me suis pris assez vite quand même pour l'accordéon. Je devais avoir dans les 14-15 ans. Et puis j'ai essayé, naturellement, parce que mon père en avait un. Donc un jour, j'ai pris l'accordéon et j'avais essayé un harmonica avant, je jouais un petit peu d'harmonica, donc comme le fonctionnement est la même chose, c'est le même fonctionnement, au lieu de souffler et d'aspirer, on ferme le soufflet et on tire le soufflet. Facilement, j'ai réussi à démarrer assez facilement en fait. La seule difficulté, ça a été de dissocier les deux mains, puisque les deux mains jouent et... Je dirais que ça a été vraiment la seule difficulté, mais c'est venu assez vite quand même. Hein. Quand on est jeune, ça vient assez vite.
Et je crois que tu parles du violon, tu parlais du violon. Je crois d'ailleurs que c'est d'abord cet instrument-là qui t'a donné envie de te lancer dans la fabrication d'instruments, enfin dans cette voie-là, quoi.
Ouais, je voulais. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu fabriquer des instruments.
C'est quoi cette lubie là?
L'amour du bois peut-être.
C'est une lubie. Je sais pas. J'espère pas que c'est une lubie, mais non. C'est vrai que j'ai toujours voulu faire ça.
Ouais. Et depuis tout petit, c'était ton
projet. Je me rappelle même gamin faire des instruments, des djembés, sculpter des.
Ah, c'est toi qui foutais le bordel sur les campings du festival.
C'est sûrement moi. Non, c'est vrai que j'ai toujours eu cette passion-là du travail du bois et puis en même temps faire un instrument, quoi, réussir à faire quelque chose avec lequel on peut jouer après.
Ouais.
Ça m'a toujours passionné. Et,
le côté magique peut-être d'arriver à assembler.
Je sais pas trop. Donc du coup, non, c'est vrai que ça m'a. Dès le lycée, j'avais déjà envie d'être luthier, quoi. Voilà, ouais.
Thank you.
Voilà, c'était Marc Perron, Marc Perron, sur l'album La Forcelle qui était sorti en 1983. Donc je crois que c'est un medley, hein, Clément, c'est ça, Mirabel, ouais. Indifférence et Dans la poche.
Ouais.
Voilà. Donc un accordéoniste français d'origine italienne qui est relativement bien connu, en dehors de moi. Mais en fait, c'est un morceau choisi par tes soins. Donc comme tout ce qu'on écoutera ce soir... Tu peux nous expliquer un petit peu ce choix et nous présenter un peu cet artiste-là, même s'il est relativement bien connu, mais pour
ouais,
peut-être pour
bah,
le bébé de l'accordéon, c'est peut-être difficile.
Alors je vais essayer, je dirais que, bah oui, comment parler de l'accordéon diatonique sans parler de Marc Perron, quoi, parce que c'est vraiment lui qui a fait, je dirais, renaître un petit peu l'accordéon diatonique, hein, parce que, bon, ouais, il faut savoir que, on va dire dans les années 1950-60, je pense à peu près, l'accordéon diatonique était complètement effacé, voilà, mis de côté, a laissé place à l'accordéon chromatique. Et justement, Marc Perron a su justement faire revivre l'accordéon diatonique.
Mais apparemment, je crois que lui avait une fabrication assez spécifique d'un accordéon. J'avais lu ça quelque part comme quoi vraiment un accordéon diatonique, mais bien précis. Je crois que c'est un facteur italien.
Il s'est fait faire des accordéons par une marque d'accordéon d'ailleurs très, très reconnue aujourd'hui, hein, qui est Castagnari.
On n'a pas le droit à la pub. Hein,
ouais, on peut le dire quand même. En plus, je dis ça, c'est un concurrent.
Ah oui.
Ah bon.
Bah oui, c'est vrai.
Ah oui.
Ah oui.
Non, n'allez pas acheter un Castagnari.
Non, mais c'est vrai que c'est. Il a su apporter plein de choses à cet instrument, justement. Ouais. Il a composé des plans de clavier, modifié l'instrument pour qu'il soit remis, justement, au goût du jour, un petit peu. Quoi.
Puis lui trouver sa typicité, quoi, ce qui faisait sa personnalité à cet instrument. En fait,
aussi,
Le son qui ressemble à rien d'autre qu'à celui d'un diatonique.
Exactement, c'est vrai que le son des premiers accordéons diatoniques, hein, d'avant-guerre, on en voit encore, c'était vraiment des casseroles.
C'est un peu crin-crin.
C'était ça. Quoi. Moi, j'en vois toujours aujourd'hui à l'atelier des gens qui me rapportent l'accordéon du grand-père qui était dans le grenier depuis des années et puis qu'aimerait le remettre en état pour ne serait-ce que pour la mémoire du grand-père, quoi. Et c'est vrai qu'on retrouve le vieux son des vieux accordéons, c'est inaccordable et puis, c'est assez criard comme son,
ça,
quoi.
Il y a eu beaucoup de progrès depuis, quoi.
Au niveau du poids, au niveau de l'ergonomie, du jeu,
Et toi, du coup, comment t'en viens à du violon que tu rêves de fabriquer
à l'accordéon.
À ton métier d'aujourd'hui, en fait, comment on se forme, comment on devient un facteur d'accordéon? Est-ce qu'il y a des écoles?
Il y a des écoles pour apprendre à être, on appelle ça technicien réparateur en instrument de musique, c'est le diplôme, en fait, et option accordéon, on peut passer cette formation... C'est un CAP en 2 ans. Ça se passe au Mans. Mais moi, je n'ai pas du tout suivi cette formation-là. Moi, j'ai une formation de menuisier ébéniste. Et puis, ayant eu...
Une formation généraliste. Quoi.
Voilà, ouais.
Pour fabriquer des commodes que des...
Ah, exactement, ouais. Ah, oui, non, à l'école, on n'apprenait pas du tout à fabriquer des accordéons. Hein. Non, j'en suis venu à l'accordéon à fabriquer des accordéons parce que je me suis mis justement à jouer de l'accordéon à l'âge de 15 ans à peu près. Et puis voilà, je me suis dit pourquoi pas en fabriquer, quoi. Ça me paraissait faisable. Mais je suis autodidacte quand même, hein, vraiment. À force d'essayer, j'en ai démonté un, j'en ai démonté deux, j'en ai fabriqué un que je trouvais bien au début, mais avec un peu de recul, il y avait quand même pas mal de choses à modifier. Et puis, à force de faire et défaire, on finit par faire quelque chose de, de vendable et de fiable, quoi.
Donc tu n'as pas suivi de formation spécifique en dehors du fait que tu étais ébéniste, mais t'as pas, parce que t'imagines si à 15 ans tous les guitaristes en herbe commencent à démonter pour devenir luthier, on aurait des millions de luthiers dans le monde. En fait, l'idée c'était vraiment c'est la curiosité de l'instrument qui t'a amené à
exactement.
En fait, t'es rentré dans ses entrailles en disant je veux comprendre le mécanisme.
Exactement, ouais, c'est vrai. Bon, j'ai quand même suivi une formation, mais là, après vraiment spécifique pour l'accordage de l'accordéon, parce que là, ça demande quand même, c'est presque deux métiers différents. Hein. Il y a des gens qui ne font que ça, qui font que de l'accordage. Et moi aujourd'hui, même si je fais pas tout dans l'accordéon, j'aime bien quand même partir de rien et puis rendre l'instrument terminé au client, quoi. Et l'avoir accordé, c'est aussi une façon vraiment de le finaliser, quoi, vraiment.
Mmh. Est-ce qu'il y a des fabricants qui ne font que la construction mécanique et qui passent après à une
À
un accordeur qui va lui, on va dire, préparer l'instrument pour qu'il soit prêt à jouer.
Il y a des facteurs qui vont faire toute la partie ébénisterie, je dirais, lutherie en quelque sorte, le montage des mécaniques, et puis qui sous-traitent, qui font faire l'accordage par des accordeurs, quoi. Mmh. Mmh.
Et il y a des plans sur internet, des patrons, parce que quand même, enfin moi je vois à peu près ce que c'est un accordéon. Franchement, c'est un peu compliqué quand même.
Je crois que tu peux trouver quelques plans sur internet. Tu peux trouver quelques plans sur internet. Après,
je parle d'internet parce que c'est quand même le premier truc que tout le monde fait pour trouver.
Je dirais que si. Bah, après, il faut savoir aussi que chacun a sa manière de faire. De toute façon, on peut pas. On peut pas reproduire à l'identique le travail d'un autre, et puis c'est pas le but non plus. Le but, c'est d'essayer de faire quelque chose de différent pour justement avoir des instruments différents, quoi. C'est ça qui fait.
Mais juste une question totalement de béotien, mais l'origine d'un accordéon, c'est quoi? C'est un bout de bois? C'est comment tu le... Alors, c'est peut-être un secret de fabrication, on va peut-être pas dévoiler non plus.
Non, je ne dirai rien.
Tu ne diras rien. Mais comment, voilà, c'est constitué de quoi? Au-delà du mécanisme, j'imagine, à l'intérieur, mais son entourage, son enveloppe, c'est quoi? C'est quoi?
Alors,
c'est peut-être quelque chose, je veux pas faire d'espionnage.
Non, pas du tout. Non, je vais essayer d'être assez simple. En fait, l'accordéon, on peut différencier déjà trois parties. On a la main gauche qui va être la partie accompagnement où on va jouer les basses, la partie du milieu qui est le soufflet. Hein, le soufflet, il est en carton, en cuir et en tissu avec des angles métalliques. Et puis la main droite qui va être là pour jouer la partie mélodie ou en accord. Donc la partie caisse, les deux caisses de chaque côté sont en bois. Alors pour un accordéon chromatique, en général c'est un contreplaqué ou un bois composite, quoi. Et sur des accordéons diatoniques, la plupart du temps c'est du massif.
Voilà.
Et à l'intérieur de ces caisses, on a ce qu'on appelle les musiques, c'est des hanches métalliques qui vibre pour produire ce son au passage de l'air sur l'anche. Voilà.
Thank you.
Sharon Shannon sur un album intitulé Out the Gap, sorti en 1994. Apparemment, tu nous disais hors antenne que ce morceau était un tube de cette accordéoniste irlandaise.
Ouais, c'est un morceau qui est quand même assez
très dansant. Enfin, assez, vraiment, c'est assez la musique reconnu, de danse, de bal folk.
Ouais, musique vraiment irlandaise, quoi, trad irlandais. Et c'est vrai que il y a énormément de musiciens qui connaissent ce morceau-là, quoi. Mmh. Ouais. Mmh.
Tu peux nous en parler un peu de cette musicienne, Sharon.
Shannon. Je la connais pas énormément, personnellement d'ailleurs.
Sympa, Sharon.
Si ce n'est que c'est une très belle femme.
Ok.
Non.
Donc Sharon, si tu nous écoutes.
Non, mais c'est vrai que j'aime bien ce qu'elle fait. C'est vrai qu'elle a un jeu très 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 rapide. Je joue de l'accordéon diatonique irlandais, par contre.
Là, c'est vraiment, qui n'est pas le même que celui qu'on produit en France, si je comprends bien.
Non, oui. Voilà, c'est vraiment un accordéon spécifique pour jouer de la musique irlandaise. Mais ça reste quand même un accordéon diatonique. Et d'ailleurs, je crois qu'elle fait aussi du violon, plusieurs instruments aussi, il me semble. Oui. Mais elle est vraiment connue pour l'accordéon, quoi. Oui.
Et ça m'interroge cette typicité aussi des instruments, finalement, qui varient selon les pays, quoi.
Ouais, tout à fait.
Je sais au Brésil aussi qu'on a des accordéons diatoniques qui sont sans doute très différents alors de ce qu'on a ici.
Bah voilà, ça dépend du répertoire. Je dirais aussi de la région, parce que même
du climat.
Du climat aussi sûrement. ouais. Non, mais c'est vrai que par rapport à
même en France, on a
par rapport au style de jeu, quoi, qu'on veut jouer. Ouais,
en France aussi, il y a des différences.
Même
entre régions.
Par exemple, je sais surtout par rapport au nombre de voix qu'on met à l'intérieur. Enfin là, après, on rentre vraiment dans l'accordéon, quoi. Mais par rapport au style de jeu qu'on veut faire, au nombre de voix qu'on utilise quand on joue tel ou tel morceau, en fonction de la région, en fonction de du répertoire de la région, quoi. Ouais.
Alors, tu nous parlais de la façon dont tu étais venu à la fabrication d'accordéon.
À la facture.
La facture, ben oui. Ouais. La facture, j'aime pas trop ce mot-là, c'est pour ça que j'ai pas trouvé. trêve de plaisanterie. Donc, comment tu es venu, du coup, tu nous racontais comment tu étais venu à ça, mais comment on peut avoir un hobby, une passion pour la fabrication d'instruments, mais comment on en fait son métier? Comment, à un moment, on arrive à en vivre? J'imagine qu'il y a un cap à passer qui n'est pas forcément simple.
Entre
le moment où tu expérimentes des choses chez toi et puis le moment où tu dis, tiens, là, ça, j'ai trouvé la bonne formule, je pense que je fais des instruments qui valent le coup.
Déjà, j'ai pas commencé par faire ce métier-là. J'ai d'abord travaillé à la fin de mes études en ébénisterie, en menuiserie. Et puis dès que j'ai commencé à travailler, l'argent que je gagnais, c'était pour m'acheter des machines,
dans le but de pouvoir
travailler chez moi et faire des accordéons.
Oui, donc c'était quelque chose qui te
vraiment passionné, hein, je sais pas pourquoi, mais écoutez, ça...
c'est bien.
Donc quand tu étais menuisier, tu faisais des lits en accordéon,
quand même pas.
Genre, des trucs subliminaux.
Non, je dirais que à force de j'ai commencé par faire un accordéon, puis deux accordéons, et puis je les ai présentés à des facteurs français, comme on est peu nombreux aujourd'hui. Enfin, quoi qu'aujourd'hui on commence à être de plus en plus nombreux.
Ça représente combien d'ailleurs
À l'époque où je me suis lancé, on était une dizaine.
Ah, si peu.
Ouais, une dizaine. D'accord. À fabriquer vraiment.
Tu es un oiseau rare donc.
Et aujourd'hui, on doit être un peu plus que ça. Je pense qu'on est pas loin d'une quinzaine.
D'accord.
Ouais.
Et ça reste un métier assez peu représenté.
Oui, quand même. En même temps, la demande n'est pas énorme. Et c'est ce qui fait aussi que c'est assez intéressant en plus, quoi. C'est qu'il faut essayer de se démarquer les uns des autres pour faire un produit qui a un son particulier, quoi. Voilà. J'ai été voir plusieurs facteurs avec des prototypes, en gros, quoi, des accordéons, les premiers que j'avais faits. Et puis, suite à leurs conseils, un jour, je me suis dit, j'ai les moyens, je peux peut-être commencer. Et puis, je crois qu'à un moment donné, il faut se dire qu'est-ce qu'on risque. Hein, c'est pas compliqué. J'ai pas grand-chose à perdre, hein, au début. Et voilà. J'ai choisi pour l'instant un statut. C'est le statut le plus simple qui puisse exister aujourd'hui. Je suis auto-entrepreneur et je dirais que ça se passe très bien. C'est très simple au niveau comptabilité, tout ça, très facile, alors que là-dedans, c'est pas,
ouais,
pourtant pas mon truc.
Un peu peur, ouais.
Ouais, ouais, un petit peu quand même, mais oui, c'est vraiment zéro, quoi.
Mais aujourd'hui, il y a une quinzaine, comme tu dis, de facteurs en France, donc c'est rare, mais il y a une demande qui est... La demande, elle est importante
Ouais, elle est de plus en plus importante, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui... Il y a un renouveau quand même de l'accordéon diatonique, en tout cas, vraiment, moi je m'en rends compte, depuis, je dirais, à peu près 10 ans quand même. C'est vrai que ça touche tout public, hein, vraiment. Moi, je donne des cours là, à Laval et en Sarthe, et c'est vrai que j'ai des gens de tout âge, hein, des enfants de 7 ans... des personnes de plus de 60 ans. Vraiment.
D'accord, ouais, c'est intergénérationnel, il n'y a pas une tranche d'âge plus qu'une autre.
Non, non, et c'est vrai que c'est une musique, bon, bah, c'est une musique assez, comment je dirais, c'est toujours sympa de sortir l'accordéon. C'est vrai que les gens, je pense que c'est ça qu'ils voient, quoi, en fait, de famille ou entre amis, sortir un accordéon, c'est toujours...
Et en termes de demandes, comme tu disais, donc, elle commence à être importante, parce qu'il y a une espèce de renouveau, mais il y a des demandes particulières, des musiciens, par contre, qui te démarchent...
Moi, en fait, pour me faire connaître, je fais des... Surtout, je me fais surtout connaître sur des salons, des salons de lutherie, en fait.
Des festivals.
Voilà, ouais. Des festivals. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre plein de gens, des musiciens, alors aussi bien des amateurs, mais aussi des très bons musiciens qui viennent tester. Et puis après, on prend des commandes sur des festivals.
D'accord,
comme ça.
Ouais.
Quoi. C'est des...
ouais. Mais le temps de fabrication d'un accordéon, c'est plus ou moins long ?
Il faut compter à peu près, je dirais, 3 semaines, 1 mois.
Où tu ne fais que ça ?
Où je ne fais que ça, oui. 3 semaines, 1 mois par accordéon.
Ouais. Ce qui est à l'échelle de notre société aujourd'hui, où on produit les choses super vite, paraît extrêmement long, quoi. Un mois pour fabriquer un instrument. En même temps, quand on voit la bête, on se dit que c'est pas beaucoup.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est vrai que...
Mais c'est un travail d'artisan avant tout, quoi. Enfin, voilà.
Voilà, après, c'est vrai que ça pourrait aller plus vite, mais aujourd'hui, c'est
pas du tout...
Ah non,
je dis pas que tu travailles lentement. Hein.
Non.
Ah, mais
non,
c'est par rapport à l'échelle de ce qui peut se fabriquer aujourd'hui dans l'industrie, tu vois.
C'est pas ce que je vise. Je vise à travailler... Bon, pour l'instant, je suis tout seul, mais c'est vrai que... je dis ça, j'ai un stagiaire qui arrive la semaine prochaine.
À pouvoir faire les cafés.
Voilà.
Les photocopies.
Et la compta.
Non, mais au contraire, je suis super content d'essayer de pouvoir
pauvre
stagiaire prendre.
Pauvre stagiaire s'il écoute ce soir.
Qu'est-ce que je disais du coup ?
Non, mais le temps de fabrication, comme tu dis, tu privilégies. Prendre ton temps, enfin
c'est pas la qualité qui veut ça,
voilà. Et puis en même temps, c'est vrai que j'essaie aussi au niveau esthétique de mettre mes connaissances que j'ai dans le bois un peu de l'esthétique de l'accordéon
qui peut se démarquer aussi des
et
autres,
voilà. Ça prend un peu plus de temps forcément que sur des accordéons qui sont faits en série et puis ou en usine, quoi, fabriqués en Chine.
Bon, on va pas faire de polémique là-dessus. Je te laisse justement, Clément, présenter le troisième morceau de ta sélection. Je crois que c'est un titre du groupe Trèfle.
Ouais.
Qui n'est pas un.
Alors.
Qui est un trio qui rassemble en fait 3 accordéonistes, c'est ça ?
Voilà.
Je crois qu'il y a un belge, hein, dedans.
Voilà, pas le titre exact du.
Les 3 accordéonistes diatoniques, c'est ça.
Donc par contre, donc c'est le groupe Trèfle composé de 3 accordéonistes et 1 percussionniste. Et donc les accordéonistes, c'est Didier Laloy qui est belge, Bruno Letron et Wim Klaas qui est lui hollandais. Et voilà, c'est complètement différent de ce qu'on a pu entendre au début. Ça montre un petit peu, la diversité de morceaux qu'on peut faire aujourd'hui avec un accordéon diatonique, quoi. Ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les modifications qu'on a pu apporter justement à cet instrument.
On écoute. We'll be right back.
C'est moi qui cause et qui désannonce. Trèfle, un trio d'accordéonistes assez virtuoses, voilà, donc dont on vient d'écouter un morceau sur un album qui s'appelle Dampft, et voilà, qu'on vous recommande et que nous a fait découvrir notre invité Clément. Je le disais en intro, c'est un beau métier de construire des instruments de musique, des objets qui vont comme ça avoir une vie ensuite entre les mains de musiciens, d'artistes. Mais quelque part, c'est un acte de création artistique, puisqu'on crée on crée son propre instrument qui, et tu l'as bien dit, en plus, dans le milieu de l'accordéon, est souvent propre à chaque facteur. Mmh. Chacun met sa patte, chacun met sa touche, et finalement, chacun voilà, crée quelque chose qui est propre à son identité. Et ça, c'est super intéressant. On ne fabrique pas du tout des objets à la chaîne, en fait.
Oui, non, oui. C'est vrai que c'est justement ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut fabriquer des accordéons et en vendre. C'est parce qu'on arrive à faire en sorte d'avoir un son différent de tel facteur ou tel facteur. C'est vrai que moi, j'utilise des lames... Des hanches qui ont un son assez, assez métallique et qu'on retrouve dans peu d'accordéons.
Alors pourquoi ce choix-là d'ailleurs ? C'est marrant.
Bah parce que c'est un son qui me plaisait. J'ai fait plusieurs essais avant de choisir ces hanches-là. C'est vrai que j'en ai testé au moins 3 ou 4, hein, qualité d'hanche. Et je sais pas ce qui fait que ce son-là me plaît, mais
c'est là que tu cherchais.
Voilà, c'est exactement ça que je recherchais comme son, un son qui est beaucoup plus métallique, hein, qui est très proche de l'harmonica, et c'est ça qui me plaît, quoi, un peu moins rond et quelque chose d'assez agressif, un peu dans le son de ces.
Un peu rock'n'roll ou quoi ?
Peut-être pas rock'n'roll, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Un harmonica métal qui fait du métal.
Et justement, si on continue un peu dans cette recherche de personnalité, du son, tu parles des lames, donc des hanches. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent justement pour personnaliser son instrument, le choix des essences de bois, voilà, je sais pas, moi, des formes, des
ouais,
des
alors
formats,
le bois n'a pas énormément.
On peut tout inventer finalement.
Oui, parce que c'est vrai que c'est un instrument qui est pas du tout fini entre guillemets,
c'est ça qui est
quoi.
Pas formaté, quoi.
Voilà,
c'est ça qui est chouette, quoi. Voilà, il y a une place à l'inventivité, quoi.
Exactement, ouais, et d'ailleurs il est toujours en évolution. Il y a il y a maintenant des accordéons diatoniques avec des basses chromatiques. Même un très bon musicien qui connaît un peu la musique, il va réussir à composer un plan de clavier par rapport à ce qu'il recherche comme style de musique, et du coup il va vouloir telle note à tel endroit. Et
ça t'arrive des gens qui arrivent comme ça avec des demandes un peu,
ouais.
peu atypiques, un peu bizarroïdes.
Ça m'est déjà arrivé, ouais.
Ou inversement, est-ce que t'as des gens aussi qui connaissent ton comment dire, ta marque en fait, ta caractéristique, et qui viennent te voir en disant ouais, parce que j'aimerais vraiment travailler avec toi ou avoir un accordéon, parce que je sais que t'as le choix de la hanche métallique qui se rapproche de l'harmonica peut être aussi pertinent, et j'ai envie d'aller dans cette direction.
Bah, tout à fait, ouais. Les gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont en général avant essayé mes accordéons, comme je disais tout à l'heure, sur des festivals ou des salons, et ils ont aimé ce son, et puis ils reviennent me voir après pour justement discuter de ce que je fais, de ce que je peux leur proposer, et puis parce que c'est vrai que je laisse aussi un petit peu le choix aux musiciens, justement sur l'esthétique, un petit peu sur l'essence de bois, la marqueterie, avoir un petit peu de marqueterie dessus ou sans marqueterie du tout, sur des motifs de gris aussi que je découpe. Donc voilà, je pense que ça aussi ça plaît aussi un petit peu aux musiciens de savoir qu'il peut un peu composer entre guillemets son propre instrument, sur mesure, quoi. Ouais.
En fait, les gens te commandent pas un accordéon sur un catalogue,
non,
ils ils fabriquent avec toi, enfin, en tout cas ils définissent avec toi les caractéristiques de l'instrument. Mmh.
Voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Ouais. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué parce que j'ai vu des fois même proposer des grilles sur mesure et avoir des quand je parle de la grille, c'est le couvre-note qui est une grille qui est sculptée en gros quoi sur l'accordéon. Et j'ai vu des fois avoir des gens à me proposer des idées un peu farfelues, quoi. Ouais. Puis bon, après, on n'en sort plus. Donc, c'est vrai qu'il faut, ouais, faut que ça reste quand
faut
même
y des limites,
raisonnable. Ouais. Et voilà.
Ouais. Alors, ouais, vas-y. Tu...
Non, non, voilà.
Alors, tu disais que le bois intervenait assez peu, finalement, dans le son. Alors, qu'est-ce qui, si on continue là-dessus, qu'est-ce qui fait un peu ta marque de fabrique? Qu'est-ce que tu as voulu
Bah, je dirais que déjà, forcément, la qualité de l'anche joue énormément sur le départ de l'anche. Une anche qui est bien faite, elle va partir tout de suite. Il va falloir un tout petit peu d'air, une toute petite pression sur le soufflet pour que l'anche démarre. Donc ça, vraiment, c'est ce qui fait que le jeu est agréable, en fait. Et puis, je dirais aussi, ce qui influe sur le son, le choix des pots, parce que sur ces anches, on met des pots en cuir. Qui servent en gros de clapets. Et alors ces clapets peuvent être en cuir ou en plastique aussi, donc ça joue aussi énormément sur le son. Si on veut un son très claquant, on va mettre une peau synthétique en plastique. Si on veut un son un peu plus feutré, plus doux, on va plutôt mettre du cuir. Voilà, qu'est-ce qui peut jouer aussi sur le son? La table d'harmonie aussi joue beaucoup. Si on met des tables d'harmonie, c'est une pièce maîtresse de l'accordéon, dans l'accordéon, en métal, ou si cette table d'harmonie est en métal ou en bois, ça joue aussi beaucoup, quoi. Ouais.
Pardon, je voulais juste revenir aussi sur les étapes de fabrication. Tu nous as dit comment c'était constitué en termes de bois, ouais, etc. Mais voilà, tu commences comme... Comment tu l'abordes, l'accordéon, la construction de l'accordéon dans un premier temps?
Alors, je pars d'un plan. Je fais un plan par rapport au modèle que je veux faire. Ensuite, je vais chez le menuisier du coin acheter du bois.
Ouais.
Et puis, je lui achète une planche débitée dans un tronc, quoi, tout vêtement.
Ouais.
Et puis après, je pars de là, je découpe mes planches, et puis je fabrique justement toute la partie ébénisterie. On commence par là, on fait toute la caisse, le clavier, puis après une autre pièce vraiment très maîtresse de l'accordéon, c'est les sommiers. C'est une sorte de peigne qui se trouve à l'intérieur de l'accordéon, sur lequel est fixé les anches. Et donc ça, ça prend beaucoup de temps quand même à la fabrication, et c'est vraiment... comment je dirais, c'est ce qui la fabrication du sommier, c'est ce qui donne aussi la particularité du son de l'accordéon, quoi.
Et donc voilà, c'est ça qui est la deuxième étape. Et après j'imagine c'est un assemblage aussi,
après, voilà,
de plein de pièces que tu commandes à droite à gauche,
voilà,
t'as tes fournisseurs,
voilà, alors
boutons,
le soufflet je le fabrique pas, parce que je pourrais le fabriquer, mais ça demanderait beaucoup de temps. Ça demande aussi un savoir-faire, parce que c'est très difficile de faire un soufflet.
Ouais. C'est un papier, mais tu prends un fer à repasser, tu repasses et tu...
Ouais, en quelque sorte, c'est
si
ça.
Si t'es fort en origami, tu peux faire un super soufflet. Non, mais ouais, je plaisante. Hein. Ouais.
Non, mais c'est presque ça. Non, non, c'est du carton plié en accordéon, en fait. Et donc on assemble quatre côtés pour faire la forme d'un soufflet, quoi. On met du tissu à l'extérieur, du cuir à l'intérieur pour la souplesse au niveau des angles. Et puis, mais bon, pour avoir un soufflet souple, pour que ce soit agréable à jouer, c'est très difficile. Faut vraiment avoir un savoir-faire particulier, quand même vraiment spécifique à la fabrication des soufflets, quoi. Et les Italiens sont très bons pour ça.
Thank you.
Voilà, c'était Samouraï, qui n'est pas un film japonais, mais un orchestre d'accordéon apparemment, ce qu'on me disait, dont l'album, en fait, sorti de l'album qui s'appelle Accordéon Samouraï, sorti en 2011, je crois. C'était, oui, c'est ça, c'est un ensemble de 5 accordéonistes,
voilà,
dont 3 de trèfle ou 2
Non,
2
de trèfle, ouais, et puis c'est 5 accordéonistes, tous de nationalités différentes d'ailleurs.
D'accord.
Et qui se regroupent comme ça pour justement essayer de composer. Par rapport justement à leur culture un peu musicale différente, et c'est assez original, quoi.
C'est là qu'on voit justement ce que tu exprimais aussi au début de l'émission, l'accord diatonique qui à la base est identifié à un répertoire trad, avec des ensembles comme ceux-là, comme Trèfle qu'on a écouté tout à l'heure, et puis Samouraï, s'échappe complètement des codes du trad, quoi. Enfin, ce qu'on entend là, c'est ça pourrait être presque de la musique contemporaine ou
ouais, complètement ouais c'est vrai que
voilà,
c'est
ça
vrai
sort
que
un peu des carcans
complètement aussi. ouais on n'est plus du tout dans des répertoires traditionnels, là c'est complètement des compos,
ouais.
Et
on est sur de la création,
c'est de la création, et c'est super rythmé, souvent assez très très rythmé, avec beaucoup de percus derrière, et justement je trouve que c'est super sympa comme style de musique, et de pouvoir en plus avoir 5 accordéons sur scène comme ça, c'est assez impressionnant à voir en plus en concert. C'est
visuellement, quoi.
Visuellement, oui, ça envoie pas mal.
Et puis c'est peut-être aussi une manière de changer la perception aussi un petit peu des lieux communs, parce que l'accordéon est peut-être souvent, comme on dit souvent, je veux dire entre guillemets ringardisé, mais souvent attribué à du musette ou des choses comme ça.
Ouais, non, c'est vrai.
Je te parle de manière générale, quoi.
Il peut avoir une image.
Il peut avoir une image un peu connotée, un peu ringarde ou surannée par rapport à ça. Donc l'intérêt, il est là aussi, j'imagine.
Ouais.
De briser cette image-là, de dépasser les frontières et d'aller vers d'autres champs musicaux ou passerelles qui font que un instrument de musique à part entière qui peut aussi bien jouer dans un registre trad, musique électro, enfin voilà, c'est
exactement, ouais
l'objectif est là.
C'est vrai que je pense que de toute façon quand on parle d'accordéon, tout de suite on imagine accordéon musette, et je sais pas si un jour on changera d'idée sur l'accordéon, mais c'est vrai qu'en même temps en France, je veux dire, la France, enfin l'accordéon est quand même associé un petit peu à l'image de la France, vraiment la musique, la musique musette, c'est ça. Et c'est vrai que c'est assez difficile de faire sortir, ressortir un peu d'autres musiques de ce style-là. Quoi.
Alors que c'est vrai qu'il y a des traditions dans d'autres pays de l'accordéon. On parlait tout à l'heure du Brésil où il y a toute une tradition autour du forró, par exemple, qui est une musique à base d'accordéon, ou le tango en Argentine.
Oui, en Argentine aussi.
Qui sont des musiques d'accordéon. Et avec encore
d'autres styles d'accordéon, mais ça reste aussi des accordéons. Hein. Les bandoneons, les mélodéons, concertina, tout ça, ouais.
On parle de pays, de voyage, justement. Tu nous parlais tout à l'heure de tes fournisseurs, et la plupart sont basés en Italie.
Voilà, oui.
Où tu vas de temps en temps, justement. voir les gens qui te fournissent toutes les pièces que tu assembles sur tes
voilà voilà là, c'est
tu
vrai
parlais d'un petit village
en Italie, voilà le berceau de la fabrication d'accordéons se trouve en Italie dans un village qui s'appelle Castelfidardo. Et c'est vrai qu'ici dans ce village là c'est assez étonnant, vraiment je dirais toute l'économie de ce village tourne autour de l'accordéon quoi. Toutes les entreprises fabriquent des pièces d'accordéon. Alors il y en a une qui va s'occuper de la fabrication des soufflets, d'autres des courroies, des anches, etc. quoi. Et c'est assez étonnant ouais, d'aller se promener là-bas parce que bah, en tout cas quand on fabrique c'est vraiment très intéressant. D'abord on peut aller voir directement les fournisseurs et
voir comment ils travaillent.
Voir comment ils travaillent, c'est assez étonnant d'ailleurs. C'est un petit peu à l'ancienne. dans le fin fond du garage, c'est assez rigolo quoi. Ouais.
Et ton atelier à toi, c'est comment c'est un...
Oh, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Moi, j'ai un atelier juste derrière chez moi en fait, situé donc à Biernay, à peu près à 10 km de Château-Gontier en gros. Et bah voilà, c'est un petit atelier bon qui me convient pour l'instant pour démarrer, c'est très bien. Il me fallait quand même un atelier un minimum isolé, chauffé, parce qu'on utilise quand même des matériaux qui travaillent hein, avec, avec l'hygrométrie de l'air, le temps en fonction de la température extérieure. Donc il faut essayer d'avoir une température intérieure d'atelier assez stabilisée pour pouvoir travailler le bois ou n'importe le cuir sans que ça bouge de trop. Quoi.
Et cet atelier-là, il est ouvert en accès libre, voilà. Je viens demain parce que j'ai un problème de hanche.
Oui, oui.
tu peux me le résoudre c'est quelque chose parce que quelque part tu fais des interventions, je sais pas, au niveau des écoles, des choses comme ça. T'as déjà été sollicité par les habitants de ta commune.
Alors par les habitants de la commune, pas vraiment, hein, parce que il y a pas forcément de musiciens, d'accordéoniste sur ma commune, mais comme je suis le seul du département, c'est vrai que j'ai des gens des fois qui viennent de loin, hein, et, voire même de très loin, hein, puisque quand on commande un accordéon, jusqu'ici, j'ai vendu la plupart du temps à des gens qui venaient d'Auvergne. Ou de très loin, ça reste encore
ouais,
raisonnable.
S'ils viennent en voiture, ça leur fait une petite venir chercher leur instrument.
Voilà, donc c'est vrai que c'est toujours un peu pénible pour eux quoi, de se déplacer exprès pour venir chercher l'instrument, mais en même temps, ils sont tellement impatients que...
Ouais, ça fait partie du plaisir aussi.
Voilà, ça fait partie du plaisir.
Tu parles de vente, on n'a pas parlé sous. 3 semaines pour faire un instrument, ça représente beaucoup de temps de travail, donc j'imagine aussi. Et puis tous les matériaux, la matière première, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
J'imagine que tout ça, au final, ça fait que l'instrument a aussi un coût.
Forcément.
Pas négligeable, quoi.
Ouais, forcément. Bah, un accordéon, de toute façon, c'est forcément assez coûteux, un accordéon neuf. C'est sûr que moi, en plus, j'ai. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai des fournitures à acheter, je ne fabrique pas tout, j'achète le soufflet et les hanches, et une partie des mécaniques aussi, et ça a forcément un coût. Ensuite, forcément, il faut un minimum compter son temps de travail, sinon on ne se paierait pas, quoi.
Bah oui.
Après, un accordéon, en général, ça dépend du modèle, mais il faut compter en moyenne 2 000-2 500 euros en moyenne, quoi. Ça va de 1 008 à 4 000 euros à peu près.
C'est le tarif syndical quoi, qu'on retrouve un petit peu chez tous les facteurs.
Enfin, 4 000 euros, c'est un peu le haut du pavé, là, comme tu dis.
4 000, ouais. Il y a plus que ça.
Il y a plus que ça,
ouais,
j'imagine.
Ouais, ouais. Non, mais déjà, 4 000 euros, c'est un très bon accordéon, ouais, assez complet. Ouais.
C'est-à-dire que sur les autres, tu n'as rien foutu, quoi. C'est ce que tu veux dire.
Bah, disons que c'est des instruments qui sont beaucoup plus simples. Moins coûteux à fabriquer.
Ouais,
aussi,
sur le 4000 euros, on est plus peut-être là dans des apports techniques qui sont un peu plus complexes ou des matériaux à récupérer qui sont.
Voilà, puis beaucoup plus de fournitures aussi, quoi, plus d'anches. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait on en a beaucoup parlé, est-ce qu'on pourrait en entendre un peu? Quelques notes de ces fameux accordéons Clément Gay, puisque d'ailleurs C'est comme ça qu'ils sont estampillés.
Ouais. Alors, par contre, ouais. on dit guet, mais c'est pas grave.
Guet, on dit guet.
Ouais, on dit guet, mais ça fait rien.
Va nous le dire.
Non, mais t'inquiète, c'est pas.
Bon, bah c'est bien.
Je suis habitué. Non, si vous voulez, je vais essayer de vous jouer un morceau de Bruno Letron qui s'appelle Valère Meille.
D'accord. Bruno Letron, donc on a déjà entendu avec Trèfle, que tu nous as déjà fait tu nous as fait découvrir tout à l'heure, et puis qui joue aussi dans Samouraï, il me semble. Je crois,
oui,
non.
Oui, aussi. Ouais. Voilà.
C'est un peu la soirée Bruno Letron. Et il nous disait juste avant, je vais essayer de jouer ce morceau.
Genre, je vais jouer 30 secondes.
Il y a un peu de stress quand même.
Bravo en tout cas, super.
Non, super, ouais, merci.
C'est pas juste un bon facteur, c'est aussi un bon musicien, on dirait. Ouais. D'ailleurs, tu as joué, Clément, t'as aussi une pratique musicale dans le cercle familial, mais aussi avec ton frère, je crois, vous aviez monté un projet, un groupe, vous jouiez dans les balles et tout, mais ça c'est un peu...
Ça s'est arrêté, mais là, depuis peu, là, on a remonté un groupe là, avec mes deux frères et puis deux copains, là. De copains à copines d'ailleurs, et donc on a monté un groupe qui s'appelle le Quintet sans tête.
D'accord. Ah oui, il y a un nom et tout, c'est officiel.
Ouais, on a déjà eu notre première représentation le week-end dernier, justement. C'était assez original, dans la cantine d'Evron, c'était sympa.
Mais c'était pour quelle occasion?
C'était pour la semaine de la solidarité. C'était
d'accord.
Donc une soirée un petit peu cabaret, un peu. Et donc on a joué en fin de soirée pour animer et faire danser. C'était super sympa.
Excuse-moi, il y a qui dans le quintet sans tête en fait?
Alors,
c'est un quintet d'accordéon, c'est...
Non. Alors on est quand même deux accordéons. Enfin, donc mais par contre accordéon diatonique. Moi je suis à l'accordéon diatonique.
D'accord.
J'ai un copain qui joue de l'accordéon chromatique et de la guitare dans le groupe. Floriane, une violoniste qui joue avec nous et qui joue aussi de la guitare, qui chante aussi. Et puis mes deux frangins, alors mon grand frère à la percu, voilà, et puis à l'harmonica. Et mon frère, parce que j'ai un frère jumeau aussi, frère jumeau à la guitare. Voilà.
D'accord.
Et du coup, le répertoire, c'est répertoire bal folk aussi.
Ouais, alors on essaie
musique
de...
à danser, on va dire.
Ouais, on joue
plutôt du répertoire, pas des créa quoi.
Voilà, on essaie de, enfin pour l'instant on démarre pour se mettre d'accord, oui, voilà, pour ouais. se roder.
Ouais,
on,
ouais. On, avoir une base de...
On joue un peu de trad, voilà, de morceaux sûrs, fiables pour faire danser.
Bien
en
sûr,
plus, parce
ouais.
qu'après quand on compose, faut aussi que ça colle au niveau des
cadence,
bas et puis
ouais,
que.
Ouais, ouais.
Et puis qu'on n'embête pas les danseurs, quoi, parce que c'est vrai qu'ils
sont venus pour ça quand même.
Si la musique elle colle pas, là, c'est un peu embêtant. Mais non, on aimerait surtout composer, quoi, vraiment. Ouais. Le but, c'est justement
d'avoir votre répertoire.
Voilà, d'avoir notre répertoire et d'essayer justement de pas faire trop de bretonnant, quoi, parce que il y en a assez comme ça.
On le laissera aux autres.
Non.
Ça non, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, parce qu'il y a assez peu de formations de ce type-là sur le coin, quoi. Donc
ouais.
C'est chouette aussi pour ça,
bah,
le renouveau un peu.
Ouais, c'est vrai. Après, on commence tout juste là, vraiment. Mmh. Mais bah, comme ça, c'est l'occasion de faire un petit coup de pub.
Ouais, ben on se suivra.
C'est quoi les prochaines dates? Vous avez quelques dates là?
Ouais, on joue normalement à la Chapelle Antenaise le 15 décembre.
Dans une cantine.
Pour un bal folk.
Un bal folk.
Cette fois-ci, c'est un bal folk.
Ah oui, donc là,
ouais, attention, on va pouvoir tester.
Tu passes de la cantine à la scène là.
Ouais, là, il y a à peu près 500-600 personnes.
Ah oui, attention.
Non, c'est pas vrai.
Ah bon?
Ça pourrait remarquer des balles folk,
bah, ouais.
600 personnes,
ouais.
Ça arrive quand même.
Bah, le groupe qu'on avait avant avec mes frères, on avait monté un groupe, on s'appelait les Pat Folk, et on a joué pour la première fois à la Saint-Sylvestre de Cossé de Vivien. Et alors là, c'était vraiment blindé, quoi. Donc un peu de stress,
ouais,
quand même avant.
Première,
quoi.
Ouais.
Mmh. Mais c'était une bonne expérience, quoi.
Bon, on suivra les aventures du quintet sans tête.
Okay.
Une des autres, puisque t'as quand même plusieurs casquettes à ton arc, ça se dit pas ça, mais pas grave. T'as plusieurs casquettes à ton arc, donc à côté du à côté de la facture, hein, et du projet musical avec tes frangins. Il y a aussi, tu en parlais brièvement tout à l'heure, un atelier de musique trad, enfin autour de l'accordéon, je crois, hein,
ouais,
essentiellement,
que tu fais
à la fois que tu animes à la fois à Laval et tu disais en Sarthe.
Voilà,
bon,
aussi,
la Sarthe,
ouais.
On s'en fiche, mais non, je déconne. Non, mais voilà, donc du coup.
Non, bah oui, c'est-à-dire que je donnais à l'atelier chez moi des cours particuliers en fait,
mm-hmm.
Et puis c'est vrai que suite à
les sollicitations,
plusieurs personnes, notamment sur Laval, et comme il y avait rien à Laval, on a créé une asso pour pouvoir justement bénéficier d'un lieu. Un lieu sur Laval, et puis et du coup je propose une fois par mois un atelier collectif. C'est pas vraiment court, parce que c'est plutôt une aide à l'apprentissage de l'accordéon diatonique.
Est-ce que
quoi,
cette musique là aussi, parce que j'imagine que c'est beaucoup de répertoire folk trad, cette musique là de toute façon ça apprend comme ça, donc c'est
exactement, ouais. Ça s'apprend oralement, ça s'apprend, il y a pas du tout besoin de connaître la musique, hein. D'ailleurs moi je connais pas le solfège.
Ah bon,
mince. j'aurais pas dû le dire.
Oh là là, par contre c'est pas
shocking,
bon. Ouais, c'est pas bon pour
non,
toi.
Non, forcément je finis par
je note, hein. Vérifier, il ne connaît pas le solfège. Clément Guet.
Si Dorémy fait seul l'acido.
Ah oui, d'accord. Okay.
Continue.
et donc voilà, c'est un instrument qui s'apprend vraiment sans aucune notion, enfin un minimum
de solfège.
Quand même, voilà, de solfège, ouais. C'est vraiment pas pas nécessaire. Quoi.
Donc ouais, configuration. Demain, quelqu'un a un accordéon, veut éventuellement jouer en collectif, peut éventuellement s'adresser à ton association sans la barrière du...
Non, vraiment pas du tout. Hein. On travaille du coup avec comme support des tablatures, comme pour les guitares. Quoi.
Ouais, c'est ça.
À la place d'une note, on a un numéro de bouton, on a le sens du soufflet, si s'en tirer ou en pousser, et puis... Et puis ça roule. Quoi.
Et il se trouve où ce cours-là, en fait, à Laval ?
Alors ça, c'est dans une maison de quartier de Laval. Elle n'est pas très connue. Elle est assez reculée du côté de la gare. C'est la salle du Pont de Paris.
Ouais. Je ne sais pas.
Je m'en doutais.
Non, mais c'est pas grave. En fait, ce qui compte, c'est que qu'on sache qu'il y a un atelier d'accordéon diatonique
voilà.
À Laval.
Voilà, sinon, il faut appeler la maison de quartier Laval-Nord.
Laval-Nord,
oui.
D'accord, très bien.
Et puis, à vous donnant... Okay. Des renseignements.
Puisqu'on est dans les infos utiles, peut-être préciser quand même pour les auditeurs que ça intéresse que tu as un site internet.
Oui.
Qui est plutôt bien fichu d'ailleurs, qui présente ton travail. On retrouve tes instruments en photo.
Mm-hmm. Ouais, j'essaie de le mettre à jour de temps en temps. C'est pas toujours évident parce que moi et internet, ça fait un peu deux. Bon,
donc
j'essaie
de
le mettre quand même.
Il faut connaître la musique. Être menuisier.
La mécanique aussi.
La mécanique. Mmh. Il faut savoir faire des factures. Mmh. C'est vrai, là. Il faut aussi être infographiste. Donc c'est vrai qu'à un moment, ça commence à faire beaucoup.
Ouais, non, mais.
Non, mais oui.
Il est assez simple, hein, mais c'est vrai que déjà, ça présente bien ce que je fais. Voilà, exactement. Mmh. Oui. Mmh.
D'accord. Donc on cite l'adresse accordéon-diatonique-guais.fr. Voilà, c'est pour tous ceux qui veulent aller plus loin et découvrir aussi. Voilà, tes instruments sur ce site. Alors, pour terminer cette émission, je vous propose une vieillerie, puisque c'est la tradition de finir par un vieux morceau. C'est vrai qu'on donne toujours primauté à la nouveauté, toujours la nouveauté. Mais c'est bien aussi de revenir en arrière, de réécouter des morceaux qui ont pu être produits comme ça, au niveau local, puisque c'est à ça qu'on s'intéresse dans l'émission. Et donc voilà, la vieillerie, ça s'intéresse à ça. Et aujourd'hui, la vieillerie de cette émission, elle est de circonstance, puisqu'il s'agit d'un morceau de Alfred Gouet, qui n'est d'autre que ton grand-père, Clément.
Oui, c'est ça.
Et qui était un musicien, on dit un musicien routinier, ça se disait, c'est musicien qui apprenne et qui joue de routine. Voilà, on pourrait dire traditionnel aussi, qui animait les balles et les fêtes autour dans le Dirty South, hein, le Haut Anjou, quoi. Et donc Alfred avait été enregistré lors d'un collectage qui avait été entrepris dans les années 80 pour conserver une trace du patrimoine musical en Mayenne, un collectage qui avait donné lieu à deux doubles vinyles qui s'intitulent Jean de Mayenne d'ailleurs, qui sont épuisés, et où on trouvait des enregistrements, on va dire documentaire du patrimoine, comme je disais, musical local, où les musiciens avaient quand même une moyenne d'âge de 60, 70 ans, 80 ans. Donc ça crachote un peu le son, hein, c'est un peu brut de décrofrage, donc c'est du bon son bien roots, hein, du 5-3, qu'on va écouter pour terminer cette émission. On te remercie en tout cas Clément pour ce temps passé avec nous.
Oui. Ah non, merci. Puis, merci à vous.
On suivra.
Merci à l'autre radio. On suivra. On accueilli dans ses studios.
Bah, merci pour cette rencontre qui était fort agréable, ma foi. Donc merci. Et merci Vincent pour la technique.
Voilà, qu'on ne remerciera jamais assez.
Toujours diablement efficace.
Et puis le prochain épisode, c'est le 17 janvier pour la prochaine émission qui aura lieu en live, hein, donc en direct et en public de la crypte du Théâtre de Laval. Voilà, on se dit à l'année prochaine. Et bonne nuit.
Salut.
Salut. Thank you.
Nous allons donc, je vais donc poser quelques questions à quelques enfants qui ont participé à cette animation. Bonjour les enfants. Est-ce que ça vous donne envie de faire de la radio plus tard ?
Oui, bien sûr. Si t'as à refaire, ça serait sans souci.